une fois une femme qui n'était ni une princesse ni une chevaleresse. Une femme tout à fait ordinaire qui vivait dans un monde génocidaire. Mais cette femme avait la sensibilité et la volonté. Alors un jour, elle décida de s'engager pour ses valeurs et ses convictions, avec dans l'idée que même une personne ordinaire pouvait faire une différence extraordinaire. Bienvenue sur Radio G dans Elle était une fois, votre émission féministe qui met en lumière les femmes d'hier et d'aujourd'hui. Vous nous suivez sur le 101.5 FM ou sur radio-g.fr où vous pouvez d'ailleurs nous écrire. Moi c'est Astrid et pour m'accompagner durant cette prochaine heure, je peux compter sur la fine équipe, mes acolytes et mes copines. Elle se distingue par sa culture musicale et nous impressionne à chaque fois par ses recommandations culturelles, c'est Anna. Hello Anna, comment ça va?
Salut Astrid, ça va super et toi?
Ça va trop trop bien, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle heure. Elle était déjà passée dans l'émission et revient aujourd'hui après avoir bravé la neige et la tempête. C'est Cassandra. Bonjour Cassandra, comment ça va?
Bonjour, ça va et toi?
Ça va trop bien, je suis trop trop contente comme je le disais. Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui d'ailleurs, parce que pour la petite histoire, parce qu'ici on se dit tout, la neige a immobilisé littéralement tout le Maine-et-Loire et donc Mayalène et Emeline qui devaient venir aujourd'hui se sont retrouvées bloquées chez elles. Donc j'ai appelé Cassandra à la rescousse pour venir discuter avec nous et je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle année et pour la suite de la saison. Au sommaire de cette émission, on vous parle d'un tableau féministe vu au musée d'Angers. Connaissez-vous Hedy Lamarr, cette actrice autrichienne de talent qui a participé à l'effort de guerre? Non? Eh bien, restez avec nous alors. On vous présente également Never Ever Getting Back Together de Sophie Gonzalez et je vous spoil un peu mais, la chronique de Léonie, mais on peut déjà dire bravo les lesbiennes. Pour la reprise, j'avais envie de papoter avec vous, donc cette émission va vraiment être sous le signe des blablas en tout genre. Et l'un des thèmes que nous allons aborder, c'est la sexualité. Installez-vous avec un plaid et une tasse de thé, parce qu'on va discuter de choses sérieuses et peut-être un peu caliente. Dans chaque émission, nous recevons une angevine ou un collectif engagé pour le féminisme et les luttes intersectionnelles, ou juste une femme trop stylée qui mérite d'être mise en avant. Mais aujourd'hui, pas d'invité, j'ai envie qu'on parle avec mes girls autour du plateau. Je dis souvent qu'on est entre copines, alors il était temps de faire une émission papotage et peut-être aussi un peu ragotage. Vous êtes sur Radio G 101.5 FM pendant une heure où on vous accompagne pour lutter contre le patriarcat. Une heure dédiée aux femmes pour enfin les mettre dans la lumière qu'elles méritent. Vous êtes dans Elle était une fois. Qui dit nouvelle année dit qu'il y a quelques semaines nous étions en plein dans les fêtes. Noël, Nouvel An, Yule, nous étions nombreuses à avoir passé les trois quarts de notre temps à table, entourées du chapon, du champagne et de tonton Patrick et de ses réflexions de merde. Et parce que si les fêtes sont considérées pour beaucoup comme un moment de convivialité et de partage, c'est pour d'autres un enfer sur terre qui met à rude épreuve tous ces leux qui sortiraient un peu du moule hétéronormé, patriarcal, capitaliste et traditionaliste. Alors autour de la table, j'avais envie de changer un petit peu, j'ai décidé donc de faire un petit jeu. Parce que j'ai humblement d'ailleurs intitulé « Être woke en famille ». Ça en dit très long sur ce qui va suivre. Le principe est très très simple, j'ai une petite liste de situations et de phrases types que vous avez peut-être entendues lors des fêtes. Un peu comme un bingo, au bout de 5 points, vous gagnez quelque chose, on en discutera à la fin. Auditoris, vous pouvez vous aussi participer sur Radio G en envoyant un MP sur notre Instagram euf-radio G. Alors, autour de la table, est-ce que vous êtes prête? Ouais. Dès que... Pardon? Oui? Oh, c'est vide un peu. Réagissez, s'il vous plaît. Dès que vous avez une situation, dites-le dans le micro, n'hésitez pas. Si vous en avez 5, donc ça fait un bingo. Pour changer un peu, on va crier wokistan, parce que de toute façon, on nous reproche d'être des wokistes, alors autant aller jusqu'au bout. Ça va, les règles sont claires?
Oui. Ouais.
Je pense que je vais mettre un petit peu de son, parce que sinon c'est un petit peu triste, je sais pas pour vous. On va mettre celui-là. Non, on va pas mettre ça. On va mettre... on va mettre lui qu'on n'entend jamais. Voilà. Donc, on commence facile avec la situation traditionnelle des femmes qui se sont levées pour débarrasser la table, faire la cuisine, servir, etc. Pendant que, sans surprise, les hommes restaient à table pour discuter. Autour de la table, est-ce que vous avez vu cette situation pendant les fêtes? N'hésitez pas à bien répondre dans le micro.
Wokistan.
Wokistan, ok, t'as une phrase, ok, trop bien.
Non, en vrai, non.
T'as pas eu.
Non, c'est équilibré.
Équilibré, waouh. Bah dis donc, dans ta famille... c'est moderne. Hein. Mmh. Ok, prochaine situation. Un point supplémentaire si on vous dit alors les amours, le travail ou toute autre situation qui vous a mis ultra mal à l'aise.
Wokistan, ouais.
Encore ? Waouh, 2 points pour Anna.
Ouais, enfin, à moitié. Bon, on dit que le travail parce qu'ils veulent savoir ce que je fais.
Ok, mais c'est plutôt positif.
C'est positif.
C'est
oui.
positif, donc on le compte pas.
Ouais.
Vous gagnez un point si des propos racistes ont été tenus pendant le repas. Bon, c'est un peu la base. Et point bonus, d'ailleurs, pour le « je suis pas raciste, j'ai un ami noir », toute autre phrase qui s'y apparente.
Bah, Wokistan, hein.
Oh putain, Anna, t'envoies du lourd. Ok, on est sur un 3 points.
Bah non.
Non, pas oui. pour toi, Cassandra. T'as une bonne famille.
Il y a des vannes, mais c'est comblé avec d'autres vannes, donc c'est pas vraiment... pour moi, c'est pas des vannes racistes.
Ok, ça va.
C'est assez équilibré.
Ok, bon, ok, on voit. Par contre, toi, Anna, ça dépote. On est dans une bonne situation. Vous gagnez un point si vous avez dû justifier pour la énième fois votre régime alimentaire. Petit point bonus pour le « Ah non, mais moi, je pourrais pas arrêter la viande ». Et 2 points bonus pour « Mais t'as pensé à la carotte quand tu le sors de la terre ? Qui te dit qu'elle a pas mal hein ?» On en dit quoi sur le plateau ?
Non, moi, j'ai pas eu.
T'as pas eu, Cassandra ? Et toi, Anna ?
Non plus, ça va. J'ai eu de la chance, on va dire, entre gros guillemets, de ne pas faire de régime alimentaire avec la famille.
Ok, pas mal. Auditoriste, vous nous direz, hein, vous participez vous aussi. Prochaine question, vous gagnez un point si quelqu'un a défendu Brigitte Bardot, Gérard Depardieu, Harry Habitant ou toute autre personnalité problématique. Autour de la table, on en dit quoi ? Pas spécialement chez Cassandra.
Moi, je crois qu'on en a même pas parlé.
Oh waouh, ok. Mmh. Et ouais, toi Anna ?
J'allais dire pareil, on n'en parle pas forcément de ça.
Ok, bon c'est pas mal, ça fait 3 points pour Anna, aucun pour Cassandra, mais dis donc Cassandra, t'as des fêtes classiques et bien. Et bah dernière question enfin, vous gagnez un point si ça s'est embrouillé à cause de la politique et s'il y a eu des dingueries de droitards qui ont été dites.
Bah, Wokistan, hein.
Ok, 4 points pour Anna et toi Cassandra.
Non, enfin, on parle pas trop politique.
Non, mais ta famille, elle est grave safe. Hein.
Peut-être que juste je m'en vais quand je vois les adultes qui parlent entre eux, je me barre.
Tu restes à la table des enfants.
Ouais.
Bon deal, on est pas mal. Ok, donc ça fait 4 points pour Anna, tu as presque eu le bingo. Auditoris, participez, n'hésitez pas à nous envoyer en MP sur Instagram euf-radio-g. Si vous avez fait un bingo, on voudra tout savoir. Que vous nous dites un peu comment ça s'est passé pendant vos fêtes. Et je rappelle, si vous avez eu 5 points ou plus, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message pour recevoir votre lot. Bravo à vous toutes. Hein. On peut dire que les fêtes de fin d'année n'ont pas été de tout repos chez toi, Anna. Plutôt chill chez toi, Cassandra. On pouvait s'y attendre ou pas, on vous laisse en décider. J'espère tout de même que vous en êtes tous sortis. Grosse pensée à Céleux pour qui les fêtes sont synonymes d'angoisse et de violence. Vous n'êtes pas seul, on pense fort à vous. Merci beaucoup d'avoir joué à ce petit jeu. J'espère que ça vous a plu. J'avais envie de changer un peu. On en pense quoi, Anna, toi qui as l'habitude ?
Bah, en vrai, je trouve ça cool de faire un truc un peu interactif et tout. C'est chouette et ça permet d'en savoir plus sur
les familles.
Ouais, carrément.
Trop bien. Et bah, chouette, on va continuer avec toi, Anna, puisqu'on va partir à présent à la découverte de nouvelles pépites féministes. Nous découvrons ce que tu nous as déniché tout de suite.
Eh bien, bienvenue sur le Point Culture d'Elle était une fois. Au programme d'aujourd'hui, on parle tableau féministe et artiste française pour changer. Dimanche dernier, je suis allée au musée des Beaux-Arts avec mon coloc et sa petite sœur à Angers, histoire de faire quelque chose de ce bel après-midi ensoleillé. J'avoue, c'est un peu la honte pour une meuf qui aime se cultiver de n'être jamais allée jusqu'à présent dans un des seuls musées de sa ville, mais enfin bon, que voulez-vous ? À peine on débute le parcours que je tombe sur une œuvre qui attire mon attention. Même si Léon Forêt est un homme peintre, il a contribué en 1910 à une avancée pour les femmes en réalisant la seule peinture représentative d'une scène féministe de la première vague, donc féministe, en France. De son nom le plus récent, Maria Vérone à la Tribune, l'huile sur toile que l'artiste a peinte représente Madame Vérone, ouais, dans la salle des sociétés savantes à Paris, face à un public essentiellement masculin. Ici, elle représente une figure de lutte pour les droits des femmes. Avec elle, on retrouve plusieurs figures du mouvement suffragiste, présentes lors de cette soirée historique. Il y a Hubertine Auclair, Nelly Roussel ou encore Marie Bonneviale. Toutes féministes. À elles quatre, elles représentent un meeting suffragiste. Et suffragiste, on le rappelle, c'est le fait de se défendre pour les droits des femmes. Ça va de soi. Sur ce tableau, l'avocate Maria Vérone prend la parole pour défendre le remplacement du mot « homme » par « être humain » dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Lorsque l'œuvre fut retrouvée bien des années plus tard, elle fut renommée par le titre « Scène d'intérieur dans un café parisien », ce qui symbolise cette menace d'effacement qui pèse sur l'histoire politique des femmes encore présente aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai découvert en faisant mes recherches qu'une conférence sur cette œuvre avait eu lieu le 20 novembre 2025 à Angers même, expliquant l'histoire du tableau. Bon, c'est un peu trop tard pour donner l'info, mais comme moi, vous aurez eu le mot même 2 mois après. En tout cas, sachez que l'AFEMUSE, cet asso qu'on avait d'ailleurs reçu par le passé en tant qu'invité sur Elle était une fois, a acquis cette œuvre en 2023 grâce à un financement participatif. Le tableau a par la suite été donné à l'Université d'Angers, qui porte le projet de musée des féminismes. Après Yoa ou encore Mickey, je vous parle aujourd'hui de Lynn, une chanteuse francophone néo-soul, pour rester dans le thème, qui nous présente sa musique comme une aventure sentimentale et mélancolique. À seulement 24 ans, Lynn reconnaît aujourd'hui un succès qui ne fait que s'accroître, puisqu'elle aussi, elle est passée sur la plateforme internationale Colors. Alors rassurez-vous, je ne l'ai pas découverte de là, ou bien mes sources d'inspiration sont très limitées. Pour être honnête, c'est grâce à une amie que j'ai pu connaître un de ses premiers sons, Tes petites fesses. Oui, oui, c'est bien ça le titre. Et depuis ça, ça fait déjà plusieurs années que ses musiques reviennent toujours dans mes playlists et je ne m'en lasse pas. En fait, Lynn, elle explore les genres musicaux, en passant du R&B à la soul ou bien par la bossa jusqu'au jazz. Elle s'est inspirée même de celles qui ont animé son enfance, au point d'en faire naître une passion qui la suivra jusqu'à l'âge adulte, avec Beyoncé, Lily Allen ou bien encore Amy Winehouse. Même si durant son adolescence, Lynn explore des artistes dits plus rap, comme Flatbush Zombies, The Underachievers ou encore Joey Badass. Et malgré les genres musicaux plutôt chill qu'on peut retrouver sur son unique album 3x5, avec par exemple la bossa nova, la chanteuse écrit des sons comme fâchés qui viennent contrebalancer ce style doux et dansant avec une humeur cash et bouleversante. Par ailleurs, elle raconte que sa musique est son essence même. Autant douce que dure, l'artiste parisienne ne contrôle pas ses émotions, mais c'est par les mélodies et le chant qu'elle réussit à retranscrire au maximum tout ça. Évidemment, Lynn exprime aussi sa petite place dans cette industrie qui s'avère être très masculine. Pour ce faire, elle choisit de poser ses coronesses, selon ses propres mots, pour se renommer Big Boy Lynn, avec le nom Lynn en majuscule, parce qu'en minuscule, c'est bien trop mignon. Manière de s'imposer. Mais après, je sais pas si son nom est toujours d'actu, étant donné que je l'ai connu sous son simple nom Lynn, et que sur Insta, on la retrouve sous l'username LynnXy. On va rester sur Lynn, du coup. Lynn, c'est une artiste à écouter sur toutes les plateformes, à savourer sous toutes les sauces. Alors je vous fais confiance pour la streamer dès la fin de l'émission. En attendant, on l'écoute tout ensemble dans quelques instants avec un de ses premiers sons, comme d'hab, celui qui m'a fait découvrir cette jolie voix, Tes petites fesses. Merci d'avoir suivi le Point Culture, on se retrouve dans 2 semaines.
Merci beaucoup Anna pour cette nouvelle chronique, c'est trop cool de nous présenter aujourd'hui plein de nouveaux artistes, Lynn que je connaissais pas du tout et qu'on découvrira donc tout à l'heure. Et des tableaux au musée d'Angers, parce que c'est important aussi de mettre en avant la culture qu'on peut trouver sur Angers. D'ailleurs, en parlant du musée des Beaux-Arts d'Angers, est-ce que toi, Cassandra, tu as eu l'occasion d'y aller? Parce que je crois que tu es arrivée récemment sur Angers, donc est-ce que tu as eu l'occasion d'y faire un petit tour?
Non, pas encore.
Pas encore, mais t'aimerais?
J'aimerais bien, ouais.
En vrai, moi j'y suis allée un petit peu il y a quelques années, et franchement, pas mal. Après, bon, faut voir s'il y a des expos de temps en temps. Il y a des expos un peu qui changent, qui se renouvellent et tout. C'est pas toujours la même chose, parce que sinon, l'exposition classique du musée, bah, une fois que tu l'as fait, tu l'as fait quoi. Mais c'est toujours intéressant de pouvoir découvrir des tableaux et des œuvres d'art qu'on n'a pas l'habitude de voir en temps normal. Ok, bah super. Merci beaucoup Anna de nouveau pour cette chronique. Vous vous souvenez de Hedy Lamarr dont je vous parlais tout à l'heure, cette actrice productrice de cinéma qui s'est démarquée en devenant inventrice pendant la guerre. C'est le portrait de la semaine que tu nous présentes, Emmeline. Elle était une fois une actrice vue comme un géant intellectuel par son ami George Antheil. Hedy Lamarr, de son nom de scène Edwidge Kessler, de son vrai nom, est le génie qui se cache derrière une technologie amenant à des inventions aussi incroyables que les autres pour l'époque, telles que le Wi-Fi, le GPS ou encore le téléphone portable. Dans un contexte de guerre et connaissant un peu le domaine, Eddie est à la recherche d'un nouveau système de communication qui changerait la donne pour l'armée américaine. Pour expliquer rapidement le problème, le système de communication pouvait être intercepté et le signal envoyé à une torpille, c'est-à-dire un propulseur sous-marin destiné à la destruction de navires, doté d'un récepteur radio. Trouver un moyen de communication sécurisé était donc vital. Connaissant un peu le domaine, vient alors à son esprit de trouver un moyen de renforcer ce système. Et son idée, le saut de fréquence, c'est-à-dire le système de communication sans fil où le signal change régulièrement de fréquence. Mais comment mettre en place son invention ? Lui vient alors en aide George Antheil, il propose un système qu'il connaît bien. En effet, le pianiste utilise pour ses pianos mécaniques un système permettant au piano de jouer seul. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est pas super facile, mais pour la faire courte, sa technologie consiste à placer un rouleau de papier perforé sur le récepteur et un autre sur le transmetteur, des torpilles. Ainsi, les fréquences sont aléatoires et quasi impossibles à intercepter. Et là, c'est bon. Eddie et George ont trouvé l'idée qui pourrait changer le destin de l'armée américaine. Brevet déposé sous le nom de système de communication secrète. Mais non, la marine américaine refuse la proposition, ne jugeant l'actrice de cette prouesse que par son physique. Il trouve qu'elle ne doit pas avoir ce rôle de révolutionnaire et qu'elle ne devrait qu'être connue que pour son physique. Certes, elle est d'une beauté à couper le souffle et une actrice incontournable, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est vouée qu'à cela. Dans une société où la beauté et l'intelligence paraissent contradictoires, elle ne se laisse pas écraser par les clichés. Merci Emmeline pour ce nouveau portrait. Je connaissais pas du tout cette femme, donc c'est vraiment très cool de découvrir son histoire et de voir une nouvelle représentation de femme qui a participé à l'effort de guerre et qui a pu se démarquer dans le monde scientifique. C'est aussi super cool. Nous allons à présent marquer une pause musicale et Cassandra, je me tourne vers toi. Je t'avais demandé de nous choisir une petite musique que t'aimerais nous présenter aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit et pourquoi tu l'as choisie ?
Alors c'est, attention pour l'accent, I thought I was strange de C.G. Bess. J'ai choisi parce que c'est une angevine et que je la connais et que j'ai déjà fait des petits projets avec elle et que c'est juste une femme trop sympa, trop bienveillante et que je trouve que ses mix sont vraiment trop bien.
Et ça, c'est trop trop cool. On met en avant des artistes locaux et on kiffe. On se retrouve un instant sur Radio G 100.5 FM ou sur radio-g.fr. Bonne écoute.
My mind is crazy, I feel bad. Everything looks too much, people are too much raised by the vibes. I'm infected by every word, cause I'm fucking vulnerable. I want to be in awe, that's what I need now. But don't be afraid to let your sensitivity shine. You're so wonderful. I wanted to leave it far away. When no one could see me, when nothing could reach me. Protected by the forest, like it was the only place where I could be me. Yeah, I could be me. But now I know I'm normal. Just a little bit emotional. I don't have any problems. With the others who lack your patience. Now I know I'm no more. Just a little bit emotional. I don't have any problems. Just the others who lack your patience. But don't be afraid.
Toujours avec nous sur le 101.5 FM dans Elle était une fois, votre émission qui n'a pas peur de dire la vérité. Toujours avec mes copines, Cassandra, ça va toujours ?
Ça va toujours.
Toujours avec Anna. Anna, c'est quoi tes résolutions pour 2026 ?
Ça y est, toujours il y a des questions pièges comme ça. Ben justement, j'en parlais durant les premières minutes de 2026 avec mes meilleurs potes avec qui j'ai fêté le nouvel an. En vrai, c'est peut-être un peu cliché, mais c'est de toujours rester cette femme forte et indépendante. Oh. Et de vraiment ne, genre, que la flemme disparaisse, qu'elle n'existe plus, parce que elle a beaucoup trop pris le devant sur mon quotidien. Mmh. Et donc, j'avais tout le temps la flemme de faire des choses ces derniers temps. Et c'était très dur pour accomplir des projets et tout. Donc, cette année, full projet, full motivation, et que je me donne à fond.
Waouh, c'est de belles résolutions et je te souhaite de les tenir et de réussir. Et toi, Cassandra, c'est quoi ? Est-ce que t'as pris des résolutions cette année ?
En vrai, non. Ça, non. C'est juste un peu, je pense, à rejoindre ce qu'a dit Anna.
Ouais.
De devenir plus indépendante, moins flemmarde et de, ouais, surtout l'indépendance, je pense, c'est trop important.
Dans quel sens l'indépendance ?
Dans le sens que t'as besoin de personne. Genre, si je veux aller au cinéma toute seule, je vais toute seule. Si je veux aller manger un truc spécifiquement, bah, pas besoin d'être avec quelqu'un, quoi.
Ok.
Faire tout seul.
J'aime bien. C'est cool. Parce que les résolutions, en vrai, c'est toujours le truc qu'on lance en début d'année et qu'on finit par un peu laisser tomber au fil des mois parce que flemme, en fait, finalement. Et que souvent, c'est des trucs un peu irréalisables. Genre, faire du sport 3 fois par semaine, pardon, mais trop irréaliste. Et du coup, personnellement, j'ai, comme je suis une grosse pigeonne de la société et que je me laisse influencer par absolument tout ce que je vois sur les réseaux sociaux, j'ai fait cette année un petit bingo 2026. Je suis à fond dans les bingos, on va pas le relever. Et donc, avec 24 choses que je veux faire cette année ou des bonnes habitudes que je veux prendre, 24, ça semble énorme, mais je vous jure, c'est des trucs accessibles parce que je me connais. Donc, des trucs que je sais que je vais plus ou moins faire ou des trucs que je voudrais faire. Et par exemple, j'ai mis lire plus de livres politiques pour continuer à m'éduquer, à me sensibiliser. Donc ça, c'est assez facile parce que je sais que j'en ai envie, donc je le ferai. Et par exemple, faire une manif. Parce que l'échange qu'on avait eu la dernière fois avec Sarah m'a trop donné envie de passer le cap. Et encore plus, si je peux être entourée des bonnes personnes, je vous proposerai peut-être qu'on y aille ensemble d'ailleurs, mais ça, on en reparlera en temps et en heure. En attendant, parlons un petit peu de l'actualité, parce qu'il s'en est passé des choses pendant les fêtes, et il faudrait peut-être revenir sur quelques petites choses. Première info que j'ai vue passer, et je ne sais pas si vous l'avez vue aussi, le Noël des femmes en Irlande. Je vous explique. Chaque 6 janvier, les femmes célèbrent la fin des 12 jours de Noël en se retrouvant entre elles. À l'origine, elles retiraient les décorations et prenaient un thé ensemble, s'octroyant un jour de congé dans leur rôle de femme, laissant ainsi le travail ménager aux hommes pour une journée. Mais désormais, cette tradition se modernise et devient l'occasion de véritablement célébrer les femmes et les mettre en avant, et de soutenir aussi des initiatives telles qu'une collecte de fonds pour la cause des femmes ou encore une présentation de quelques femmes irlandaises qui ont marqué l'histoire telles que Marianne McCracken, Lady Pamela Fitzgerald ou encore Speranza Jane Wilde. Et si cette tradition vante la sororité et la valorisation des femmes, certaines craignent un pinkwashing pour capitaliser et faire du profit sur le dos de cette tradition, comme c'est le cas avec de nombreuses fêtes à travers le monde. Alors qu'est-ce qu'on en pense sur le plateau ? Est-ce que c'est une belle tradition qui mérite cette modernisation ? Ou au contraire, on sait ce que ça va donner et alors franchement, flemme. Anna.
Bah, comme tu le dis, enfin, d'abord, je trouve que c'est une bonne initiative parce mm-hmm. que, en effet, ça met en avant les femmes et tout, donc c'est cool. Mm-hmm. Mais bah ouais, par derrière il y a toute cette capitalisation, ouais. Je sais pas si on peut dire comme ça.
Si, on peut le dire.
De la fête, parce que comme toutes les fêtes, ça devient commercial mmh. et du coup forcément on en fait profit par derrière. Donc il y a plus vraiment un sens. Mais la base, elle est bonne quand même. C'est juste qu'est-ce que ça va en devenir.
C'est ça. Et toi, Cassandra, qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, je suis d'accord. En fait, ça dépend de comment on prend le truc, quoi. Si forcément c'est une fête que derrière on va faire qu'on veut faire du bénéfice avec, on le fera, mais en fait ça dépend de la base, de comment les gens ils veulent interpréter la démarche, quoi, la tradition.
Ouais, ok. Deuxième actu que vous avez très certainement vu passer, le décès de Brigitte Bardot et le monde entier qui rend hommage à cette icône française. On ne présente plus Brigitte Bardot, qui s'est distinguée par sa présence dans les arts, notamment le cinéma, la chanson, la danse ou encore l'écriture, mais également pour son engagement pour la cause animale et le féminisme. Enfin, ça c'est ce que les médias traditionnels nous rabâchent depuis son décès, mais si Brigitte Bardot a bel et bien défendu les phoques et autres animaux, elle l'a fait en tenant des propos racistes, en qualifiant par exemple les Réunionnais de, je cite, « population dégénérée ». Voilà, bonne ambiance. Elle sera d'ailleurs condamnée par la justice pour ses propos, et j'ai envie de dire, encore heureux. Parce que oui, Brigitte Bardot est profondément raciste et ne s'en est jamais cachée. Elle a d'ailleurs toujours été très proche de figures d'extrême droite, notamment de Jean-Marie Le Pen. Et en 2021, elle a déclaré même que Éric Zemmour serait, je cite, « une très belle chose pour la France ». Voilà où on en est. Et cela n'est que la partie immergée de l'iceberg, parce que je vous épargne ses propos queerphobes et misogynes qu'elle tenait publiquement par le passé. Alors oui, Madame Bardot a sauvé des animaux, mais comme le dit Brigitte Gauthier, cofondatrice de l'association L214, quand on se revendique de l'antispécisme, c'est prendre en considération tous les individus, les animaux des autres espèces, mais aussi ceux de sa propre espèce. Sur le plateau, alors, on en dit quoi? Brigitte Bardot, c'est une icône qu'il faut célébrer, ou alors faut-il la condamner? Cassandra, qu'est-ce que t'en penses?
En vrai, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit la dame, là. Si tu veux sauver des animaux, c'est hyper bien, c'est une hyper belle démarche. Mm-hmm. Pourquoi derrière, t'as des propos qui, en soi, du coup, la décrédibilisent de fou, quoi? Parce que, elle a fait des beaux trucs. Si on prend vraiment que les choses qu'elle a fait pour les animaux, c'est bien, c'est mm-hmm. une belle cause. Mais derrière, d'avoir des propos comme ça, forcément, on n'a pas du tout envie de la représenter comme une icône, quoi.
Ouais.
Pas du tout.
Ok, je vois. T'en penses quoi, toi, Anna?
Mais en fait, c'est surtout sur le point de Brigitte Bardot, la féministe. En quoi est-ce qu'elle est féministe, du coup? Est-ce qu'on a des exemples ou pas du tout?
Moi, j'en ai pas. Mais apparemment, ouais, elle était montrée comme, de ce que j'ai pu apercevoir vite fait, elle représentait, en fait, elle s'est émancipée de son image, elle a pris possession de son image et elle revendiquait un peu une liberté sexuelle pour les femmes. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu féministe parce qu'on revendique un peu la féminité, la sensualité des femmes. Mais malheureusement, c'était une femme de son époque. Donc en vrai, c'était sous le regard masculin et patriarcal. Donc est-ce que féministe ou pas, on en pense ce qu'on en pense. Mais ouais, c'était une figure assez controversée, j'aurais envie de dire.
Parce que en soi, moi, je pense que elle a été revendiquée comme féministe après sa mort parce que ça a été une grande figure féminine. Mais outre ça, on n'a pas plus de preuves, comme toi tu le dis, hormis pour la libération sexuelle. Et c'est sûr que si par derrière elle a eu des propos racistes et tout le blabla, moi je pense qu'il faut surtout la cancel, même si elle a fait partie de l'histoire musicale française. Enfin, pas que musicale, du coup. Elle a été actrice aussi.
Elle a fait plein de choses, hein. Franchement, on peut pas lui enlever ça. On peut pas lui enlever non plus ses bonnes actions. Mais je pense qu'il faut un peu nuancer par rapport à cette figure. Et de là à l'encenser et à la montrer blanche comme une colombe, il y a un monde quand même. Troisième actualité, la vague de harcèlement qu'a subi Léna Situation par rapport à Anime. Contextualisation, Léna et le streamer de 22 ans Anime ont participé à l'émission Popcorn diffusée en direct sur Twitch le 17 décembre. Ouais, ça date un peu, mais on fait ce qu'on peut. Pendant ce live, Léna a répondu au streamer après qu'il ait affirmé dire ce qu'il pense sans filtre et assumé de ne pas plaire à tout le monde. Léna lui a alors répondu, je cite, « Tout ne peut pas être mis sous la casquette « je suis jeune » ou dire ce que tu penses quand ça affecte d'autres personnes qui n'ont rien demandé. » Anime a immédiatement acquiescé, l'émission a continué tranquillement, tranquillou bilou. Mais quand t'es une femme sur internet et que tu t'en prends à Anime, bah faut être prête à en subir les conséquences. Vague de harcèlement misogyne, propos racistes et même menaces de meurtre, voilà ce qu'a subi Léna en réponse. On peut en penser ce qu'on veut de Léna situation, et j'aurai moi-même des choses à dire sur son positionnement politique, ses engagements et ses actions, mais lorsque les propos tenus sont de la violence pure et dure, bah là, on peut que les condamner. Est-ce que vous aviez vu passer l'info, et qu'est-ce que vous en pensez, Anna ?
Eh ben, écoute, j'avais même pas entendu parler de ça.
Ah ouais ?
Mais je sais que Léna est prise à chaque fois, même pas dans des sauces, parce que c'est elle la victime, et elle s'en prend plein la gueule. Mais parce que c'est une femme, parce que elle est, je sais même pas si on pourrait dire noire, mais afro du moins.
Elle est en partie algérienne, je crois. Elle a des racines algériennes, il me semble.
Je voulais pas dire de bêtises.
Mais elle est racisée, ça c'est sûr.
Pour ses origines, voilà. Depuis toujours, en fait, elle s'en prend plein la gueule. Mais que derrière, il y a pas de fondement basé sur les insultes. C'est juste, t'es une femme, donc t'es une merde. Et pour le coup, ce qui s'est passé avec Anime, c'est exactement. Enfin, ça prouve tout ce qui se passe, toute la violence qu'elle reçoit. Et bon, après, je sais que par la suite, Anime a eu un gros karma, parce que en fait, lui aussi a été pris dans une sauce à cause de ses propos. Mm-hmm. Parce que, comme tu disais, il disait des choses cash, et parfois, la casquette du "je suis jeune, je dis tout ce que je veux, je m'en fous", ça passe pas toujours. La preuve.
Non, pas toujours. Et à un moment donné, faut assumer les conséquences de ses actions et de ses paroles. Merci à vous deux pour cet échange. Je trouve ça toujours très intéressant de connaître votre avis sur différents sujets, notamment de l'actualité. On va à présent marquer une nouvelle pause musicale, puis nous reviendrons dans quelques instants avec une télé-réalité marquée par un triangle amoureux et une romance lesbienne. Puis nous passerons en mode Girls Girls pour parler sexualité et partager nos tips pour vivre au mieux notre sexualité dans un monde qui nous fait encore trop complexer. Mais avant tout ça, je vous propose d'écouter Cinderella Snapped de Jax, que j'ai découvert récemment et qui revisite les histoires de Disney. Donc assez chouette. Je vous laisse écouter et on se retrouve dans un instant sur Radio G 101.5 FM ou sur radio-g.fr. Bonne écoute!
She waited for the car to show, but she didn't know that after midnight he was busy in her stepsister's bed. So Cinderella said, plot twist. When the smoke cleared, every girl in the whole land woke the fuck up and started making demands. Rapunzel shaved her head so there was nothing to climb on. Jasmine made out with Mulan. Sleeping Beauty sued the dude who kissed her while she was asleep. And Ariel was confident without any feet. Tiana went and got a biomedical degree. And Beauty realized that she was the Beast. Cindy, sweetie, don't be so emotional. You're always so emotional. It's fine to be controllable. If I'm emotional, that'd be the reason for you to address me while you're on your knees. In the scary event that I get too emotional during your trial, so watch how you're speaking. Cause while you were sleeping around every weekend and using your power to prey on the weakest, I studied your own legislation all season. And last I checked, cheating is treason.
Snap. Vous êtes toujours avec nous dans Elle était une fois sur Radio G 101.5 FM ou sur radio-g.fr et je suis toujours avec mes copines Anna et Cassandra. Comment ça va les filles? Ça va toujours?
Oui.
On est au taquet?
Ça va toujours.
Trop cool. Nous découvrons à présent la dernière trouvaille tirée tout droit de la bibliothèque de Léonie. Bonjour Léonie!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau point littéraire de Elle était une fois. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de lire une romance comportant un triangle amoureux, ou plutôt un angle amoureux, avec deux femmes se battant pour un homme, et vous avez envie de hurler parce que l'homme il est hyper toxique, et qu'il faudrait mieux que les deux femmes, elles se mettent en couple et qu'elles aillent vivre leur meilleure vie loin de lui? Eh bien ne cherchez plus, j'ai trouvé le livre parfait pour vous. Il faut savoir que je suis une personne faible, donc si je vois un titre de roman inspiré d'une chanson de Taylor Swift, ça me donne tout de suite envie de savoir de quoi il parle. Et quand j'ai vu le résumé de Never Ever Getting Back Together de l'autrice australienne Sophie Gonzalez, publié en 2024 chez Pocket Jeunesse, j'ai foncé dessus. Imaginez une télé-réalité inspirée du Bachelor, où Jordi Miller, qui est une immonde ordure en passant, réunit 6 de ses ex pour leur donner une seconde chance de lui prouver leur valeur et de tenter de le reconquérir. Je pense que vous commencez à avoir une idée du melon du gars. Quand Maya elle est contactée par la société de production de l'émission, elle refuse. Elle est catégorique, elle ne veut plus revoir l'homme qui l'a trompée et qu'elle déteste du plus profond de son âme. Mais après réflexion, quelle meilleure vengeance sur celui qui l'a trahi que de l'humilier devant le monde entier en direct à la télévision. Alors elle finit par accepter. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Sky, la fille avec qui Jordi l'a trompée, est également présente dans l'aventure. Mais à devoir vivre ensemble 24 heures sur 24, elles vont vite se rendre compte que la personne avec qui elles souhaitent repartir n'est peut-être pas celle que l'émission avait prévue. C'est super rafraîchissant de voir un livre qui va au-delà des tropes classiques pour leur donner un twist, et j'ai vraiment passé un très bon moment. Il faut savoir que je déteste catégoriquement les triangles amoureux. Je trouve que c'est l'un des pires tropes de l'univers et je n'ai lu qu'un seul livre de toute ma vie où j'ai trouvé que ça apportait quelque chose de positif à l'intrigue. D'autant plus d'ailleurs quand c'est deux femmes qui sont en compétition pour un homme. J'ai envie de crier qu'elles ont bien mieux à faire de leur temps que de perdre leur énergie pour quelqu'un comme ça. Dans ce livre, Maya et Sky, elles apprennent à démêler les mensonges de Jordi et à se connaître réellement, loin des inventions destinées à les monter les unes contre les autres, dans le but de se protéger lui. Si vous voulez une romance saphique, young adult, qui fait plaisir à lire et qui satisfera vos envies de vengeance, je vous conseille Never Ever Getting Back Together de Sophie Gonzalez. Sur ce, je pars me plonger dans ma bibliothèque à la recherche de nouvelles pépites féministes. Ciao!
Merci Léonie pour cette chronique, c'est toujours trop intéressant et là franchement ça m'a donné envie. J'aime beaucoup Sophie Gonzalez et tu m'apprends que d'autres de ses livres ont été traduits, donc clairement j'y penserai. Ma bibliothèque manque cruellement de romances lesbiennes, donc j'irai voir. L'heure est venue à présent de rentrer dans le crousti-crousta, de parler sans filtre et de dire tout ce qu'on a envie. Installez-vous confortablement, on va parler sexualité. J'adore cette chanson, c'est diabolique si vous connaissez pas. On a déjà ouvert la discussion il y a quelques semaines quand je vous demandais si vous trouviez que la sexualité féminine était encore tabou. Dans l'ensemble, on avait dit que plus tellement, surtout entre girls, on a plus de facilité de parler de tout ça, mais que la place du désir et du plaisir féminin, c'était encore assez peu mis en avant. Et avec la montée de l'extrême droite et du conservatisme, j'ai bien peur que ça n'aille pas en s'arrangeant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais qu'on se pose en mode girls-girls, qu'on s'écoute, qu'on se conseille, qu'on partage nos expériences ou nos inexpériences. Parce qu'ici, pas de tabou, on se dit tout. Mais s'il y a des choses que vous n'avez pas envie de partager ou qui vous mettent mal à l'aise, n'hésitez pas à me le dire, aucune justification. Ici, on est dans la bienveillance max. On va donc commencer doucement. Est-ce que vous trouvez que vous avez été bien sensibilisé à la sexualité, que ce soit à l'école en cours d'éducation sexuelle ou par la famille ou autre? Est-ce que je vais y arriver. Est-ce que vous trouvez que vous avez une bonne éducation sexuelle ou est-ce que vous avez été un peu livré à vous-même, Anna?
En vrai, non.
Non.
Genre, ouais, j'ai pas été sensibilisée. J'ai l'impression d'avoir tout appris par moi-même.
Oh.
Et pourtant, c'est une bonne chose. Enfin, je veux dire, c'est une bonne chose pour moi personnellement parce que je kiffe aujourd'hui comment j'ai pu m'éduquer sexuellement, on va dire. Et que personne me l'a appris à le faire et que de mon côté pourtant moi j'ai réussi. Mais c'est sûr que dans mon enfance, même avec des cours d'éducation sexuelle ou trucs dans le genre, on n'a jamais reçu ça au collège. Et puis d'autant plus qu'à ce moment-là, c'était dans la période du Covid.
Ah.
Donc c'était un peu passé à la trappe. J'ai une famille qui est plutôt open par rapport à ça, mais ouais. Pour autant on n'en a jamais vraiment parlé, ou alors c'était à moi de lancer le sujet.
Ok.
Et ouais, non, du coup pour faire court, c'est moi qui me suis faite ma propre éducation sexuelle.
Ok. Et toi Cassandra, comment ça s'est passé de ton côté?
Ouais, pareil, genre un peu que de moi-même.
Oh.
Même les cours du collège, enfin je sais pas si c'est bien d'une manière, en même temps c'est peut-être un peu tôt parce qu'il y a toujours des hommes, hein, pour décrédibiliser le truc, je trouve. Du coup, je trouve ça dommage et du coup, une beauf.
Je trouve aussi que à l'école, c'est pas, c'est pas le tip top en termes d'éducation sexuelle. Enfin, moi, j'en ai eu en primaire où on a appris genre ce que c'était les règles. Puis j'en ai eu au collège où on a appris un peu plus ce que c'était la sexualité, comment la reproduction et tout ça. Et j'en ai eu au lycée où ça parlait un peu plus de préservatifs, contraception, consentement aussi un petit peu. On va pas bousculer les mœurs non plus. Mais ouais, en vrai, c'est pas exceptionnel. En vrai, pour moi, de mon côté, dans ma famille, ça n'a jamais été tabou, notamment avec ma mère. Donc, très vite, elle m'a donné des ressources pour m'éduquer. Et je ne sais pas si vous l'avez eu ou pas, ou peut-être pas. Mais moi, on m'a donné le guide du zizi sexuel de Titeuf. Il est ultra classique. Hein. Vraiment, c'est traditionnel de la littérature pour aider les enfants à comprendre et à poser des questions, notamment sur comment on fait des bébés. C'est comme ça que j'ai appris les choses. Et puis, plus tard, elle m'avait donné un livre un peu plus complet, écrit par une gynécologue, sur la puberté, les règles, la sexualité en général. Je crois que je ne l'ai pas lu, d'ailleurs. mais pour autant, je crois que je m'en suis plutôt bien sortie. Puis j'en parlais aussi avec mes copines, donc ça aidait vachement. Nos amants au lycée, au moment des premières expériences, on parlait beaucoup entre nous pour se rassurer, pour expliquer les choses concrètement, parce qu'il y en avait qui commençaient à avoir des relations sexuelles, d'autres qui n'en avaient pas du tout. Et donc c'était un peu le moment où genre on se posait, on était là en mode « Ok, comment ça se passe concrètement ? Est-ce que t'as eu mal ? Comment tu l'as ressenti ? Est-ce que t'as eu peur ? Est-ce que... » Enfin genre, on posait toutes les questions, il n'y avait vraiment aucun tabou. Et du coup, ça, je trouve que ça aide aussi pas mal. Donc je dirais que j'ai une bonne éducation à la sexualité dans l'ensemble, même si j'ai aussi appris toute seule, hein, comme tout le monde. Une chose que je regrette, par contre, c'est mon exposition au porno. Parce que la première fois que j'en ai vu, je devais avoir genre 9 ans. Et je sais qu'en vrai, je suis dans la moyenne. Hein. La moyenne, elle est de 9 ans en France, ce qui est beaucoup trop jeune, par pitié. Et en gros, pour l'histoire, j'étais avec une copine qui m'en avait montré sur sa tablette. Et comment elle avait su ça, je n'en ai pas d'idée non plus. Mais je me souviens que ça m'avait mis très très mal à l'aise, mais qu'il y avait quand même une sorte de curiosité un peu malsaine. Genre, tu découvres tout un nouveau monde qui s'ouvre à toi et tu ne comprends pas ce qui s'y passe. Mais il y a un petit peu une curiosité de « je veux comprendre et je veux voir ». Et bref, comme entrée en matière dans la sexualité, on a fait mieux, hein, clairement. Et donc, je voulais savoir si vous aussi, vous aviez été exposé au porno assez jeune ou pas du tout, c'est venu plus tard. Un peu comment, quelle est votre relation avec le porno, Cassandra?
Bah écoute, moi, j'en ai jamais regardé.
Ok.
Ouais, ça m'a jamais intéressé plus que ça parce que je pense que j'ai déjà dû, mais contre mon gré, tu vois, voir des trucs.
Des images.
Qui m'ont pas fait plaisir, tu vois.
Ouais.
Et du coup, je sais pas, ça m'a jamais intrigué plus que ça. Et okay. Du coup, j'ai jamais regardé.
Ok, et toi, Anna?
Bah, en vrai, pour être honnête, ça me choque un peu, 9 ans.
Et 9 surtout, ans, c'est beaucoup trop jeune.
Surtout si tu dis que c'est la moyenne.
Ouais.
Parce que ce qui me fait le plus rire, c'est que là, j'entends les paroles de ma mère qui me dit « Non, mais les collégiens qui sont exposés à du porno, c'est trop jeune. » Alors que bon, du coup, 9 ans...
J'étais
c'est...
en primaire.
Ouais, littéralement. Mais bah, en fait, ça rejoint un peu, moi, ma première consommation, entre guillemets, de porno, avec ce que t'as dit, puisque j'étais aussi avec des copines. Je m'en souviens très bien, on regardait sur YouTube à l'époque.
Ok.
Les vidéos de porno qu'on pouvait trouver et ça nous faisait marrer, mais sans plus quoi. Et suite à ça, moi j'ai commencé à en regarder et petit à petit j'ai trouvé un peu ce que je voulais. Mais c'est sûr que à l'époque, tu sais pas trop où te rendre. Tu vas sur les sites, les gros sites bien professionnels, enfin. pro, genre oui. pas amateur.
Oui.
Et donc, où c'est pas forcément la meilleure. Le meilleur exemple, parce qu'après il y a beaucoup de monde qui vont s'en inspirer, surtout les jeunes du coup qui en consomment, ils vont venir s'inspirer de ce qu'ils voient, sauf que dans le porno c'est jamais réel, c'est que du fake et parfois même c'est de la violence, c'est absolument pas ce à quoi il faut se ressourcer, s'inspirer. Et donc en vrai, je fais une parenthèse, mais je trouve que c'est bien que les sites de porno, enfin les sites porno aient fermé. L'an dernier, même si bon, c'est sûr que pour certains ça fait chier, et du coup ils vont aller sur des sites un peu pires, un peu plus trash, mais bon après, du coup les amateurs ils font plus de contenu, on va dire, que les professionnels, et je trouve que c'est plus réel. Enfin après je vais pas rentrer dans les détails,
en
évidemment.
Vrai, je sais pas.
Mais après ça dépend des comptes sur lesquels tu tombes et tout.
Ouais, je pense. Et puis je pense que ça dépend des sites aussi, parce qu'il y a des sites du coup, puisque les gros ont fermé pour raison politique, maintenant tout ce qui reste sur le net c'est que des c'est deep hein. Franchement c'est hard hein. J'avais cherché pour voir un peu ce qu'il en était au moment justement de la fermeture de tout ça. Bah franchement ce qu'il en ressort aujourd'hui, je sais pas ce qu'est le mur, mais bon. Clairement, de toute façon, on l'a dit, c'est pas la réalité. Il faut faire attention, il faut prendre une distance avec ce que vous voyez dans les pornos et la réalité, parce que c'est pas la réalité, comme Anna vient de le dire. Et je voudrais en profiter aussi pour dire qu'il n'y a pas de performance à atteindre. Parce qu'on peut voir des choses et tout ça, des pratiques parfois très violentes, parfois irréalistes. Où, en fait, on voit de tout. Donc, il faut pas essayer de reproduire. Vous faites ce que vous avez envie de faire. Il faut surtout ne pas se forcer. C'est hyper important. Et ça, c'est un truc qui peut faire un peu peur de se sentir forcé de faire quelque chose parce que bah, c'est la norme. Je pense par exemple au sexe oral. Clairement, c'est une pratique ultra courante et complètement banalisée. Mais tout le monde n'est pas prêt à le faire et c'est complètement OK. Je sais que personnellement, ça ne m'attire absolument pas. Et qu'au contraire, ça me dégoûte. M'imaginer mettre un pibou dans ma bouche. Mais... donc voilà. Mais après, moi, je ne suis pas discriminante. Faire un cuni, c'est pareil, ça me dégoûte tout autant. Et pourtant, c'est un truc que j'ai beaucoup vu passer, notamment sur les réseaux et notamment dans la communauté queer. Des femmes qui n'ont pas d'expérience lesbienne, qui refusent de pratiquer le cuni, sont souvent très mal vues. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Et en gros, ouais, c'est grave mal vu. C'est considéré un peu comme des hétérocurieuses qui sont pas très... ouais, mal vues, en gros, qui un peu genre qui veulent manipuler, tester... puis jeter les personnes et c'est pas des comportements qui sont ok, mais pour autant est-ce que culpabiliser une personne et dire ah ouais bah tu peux pas faire telle ou telle pratique, c'est que t'es pas vraiment genre lesbienne ou queer ou quoi que ce soit, bah c'est aussi problématique. Est-ce que qu'est-ce que vous en pensez autour de la table, est-ce que vous aviez vu passer ce genre de d'avis et est-ce que qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'une femme qui en première expérience lesbienne qui refuse de pratiquer le cuni par exemple, c'est problématique ou pas? Anna, qu'est-ce que t'en penses?
En vrai, je trouve ça un peu ridicule, étant donné que dans un couple hétéro, si une meuf refuse une fellation, le mec va pas lui dire « Ah ouais, tu veux pas parce que t'es lesbienne ». Si on inverse les rôles, ça perd tout son sens, et c'est souvent le cas pour beaucoup d'exemples. Mais bah du coup, je peux en soi un peu comprendre les meufs qui disent « Ah ouais, mais non, t'es juste une hétéro curieuse, ça dégoûte de faire ci ou ça ». Mais il faut aussi respecter la personne et son consentement. Enfin, je veux dire, si elle a pas envie, elle a pas envie. Ça va pour tout.
Cassandra, qu'est-ce que t'en penses toi de ça?
Ouais, je suis d'accord. Hein. Moi, je suis du même avis que toi sur tout ce qui est dans la bouche là. C'est pas fait pour aller là, non? Je sais pas. Donc non, je suis d'accord avec ce qu'a dit Anna. Genre, c'est chacun aime de sa manière et pareil pour la sexualité. T'aimes faire des choses ou tu les t'aimes pas les faire. Ça veut pas dire que on doit te mettre dans une case. Bah non, tu sors. Enfin, je sais pas.
Je suis complètement d'accord et ça pose de vrais problèmes du coup si on tente de vous culpabiliser pour X ou Y raison. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez envie de parler sur la sexualité? Est-ce qu'il y a des thèmes qui vous viennent là comme ça que vous avez en tête et que vous avez envie de partager? Pas tant. Anna, pas tant.
Bah, en vrai, non. C'est tout à l'heure, j'étais contente de parler du porno et de... Bah, de en fait, comment dire des plus jeunes, des ados qui vont venir s'inspirer de ça, et ça vraiment ça me tient à cœur parce que enfin c'est horrible, après ça se répercute dans leur vie sexuelle de tous les jours avec leur partenaire et ça peut déclencher des violeurs, violeuses
grave
à cause du porno, parce que le porno on se rend pas compte mais il y a beaucoup de viols qui sont cachés et ça me terrifie.
Je trouve qu'il y avait aussi un peu une culpabilisation, enfin un jugement des femmes qui consommaient du porno. Moi, je sais que je me souviens au lycée, il y avait les mecs qui se vantaient de regarder du porno et c'était genre c'est normal, un mec qui regarde du porno c'est ok, mais par contre dès qu'une meuf disait bah ouais moi j'en consomme, il y avait tout de suite le ah mais c'est bizarre, pourquoi tu regardes, c'est sale et tout dégueulasse. Et je trouve que cette culpabilisation, elle est pas saine. Et je sais pas si vous aviez ressenti un peu, toi Cassandra, tu disais que t'en avais pas consommé. Est-ce que t'avais malgré tout été témoin de ce genre de comportement? Est-ce que t'avais ce sentiment-là aussi que c'était mal vu?
Oui, bah même la masturbation ou les pornos. Enfin, si les filles elles en parlaient, je pense qu'elles se faisaient juste un peu une mini répute, d'une manière en mode ah. T'es une folle ou des trucs comme ça, tu vois. Alors que bah, les hommes, oh, vas-y, t'es beau gosse, tu fais ça.
C'est vrai qu'il y avait exactement pareil pour la masturbation et c'est quelque chose du coup qui était ultra tabou. En fait, comme si la sexualité des femmes, c'était soit pour faire des gosses, soit pour donner du plaisir à l'homme, mais jamais en aucun cas pour prendre du propre plaisir et vivre librement son désir. Et je trouve que ça fout un peu parce qu'en vrai, du coup, combien de femmes et de jeunes filles ont culpabilisé de regarder du porno ou de se masturber alors que c'est complètement ok et normal. Toi, Anna, est-ce que tu... Genre, il y avait cette... ce jugement, enfin non. Est-ce qu'il y avait ce tabou de la masturbation aussi dans ton entourage ou pas tant?
Bah, je sais qu'au collège, et puis c'est l'âge bête.
Ouais, bah carrément.
Je m'en souviens, il y avait un gars, un moment pendant la récré, qui était passé voir toutes les filles pour dire ouais, est-ce que toi tu t'es déjà masturbée?
Mais c'est fou ça.
Mais oui. Et dès que l'une d'entre elles disait oui, il était en mode mais non, n'importe quoi, pourquoi tu fais ça et tout. Enfin, c'est dingue. Comme si on était des aliens qui faisaient pas les mêmes choses qu'eux. Parce que eux, pour le coup, comme tu dis, ils s'en vantaient tout le temps, partout. Mais dès que c'était une femme qui se masturbait, oh là là, mais quelle drame.
Mais déjà, à partir du moment où on sait que le clitoris n'était pas représenté dans les manuels scolaires, ça en dit quand même long sur la société et sur la considération des femmes et du corps des femmes. Je trouve que ça fout quand même. Mais bon. Globalement, en résumé, on peut dire qu'il faut toujours s'écouter, se respecter et surtout ne jamais se forcer. Si quelqu'un vous fait culpabiliser parce que vous n'avez pas envie de faire quelque chose, que vous n'êtes pas à l'aise ou pour toute autre raison, c'est un viol en fait, disons les termes. Donc vraiment prenez soin de vous, écoutez-vous, n'ayez pas honte d'avoir du désir, de prendre du plaisir. C'est tout à fait ok si vous avez envie de consommer du porno bien quand même, parce qu'il y a beaucoup de porno comme on disait qui sont pas ouf et qui ont une très mauvaise représentation. Je sais pas s'il y a des sites qui sont safe. Je sais qu'il y a du porno féministe et ça je sais, non mais vraiment je sais qu'il y a des femmes qui intègrent l'industrie du porno pour créer du contenu safe, féministe, inclusif et en fait qui a une représentation beaucoup plus safe et représentative de la réalité. Et en même temps, qui s'engage à mieux rémunérer tous les actrices, que ce soit actrices en sens propre du terme ou les caméramans, les gens, enfin bref, toutes les personnes dans l'industrie du porno, parce que ça, c'est pareil, la considération, pardon, ou la rémunération de toutes ces personnes qui travaillent là-dedans, c'est pas toujours très bien fait et c'est pas toujours très safe aussi pour les personnes qui travaillent dans cette industrie-là. Donc c'est important de bien les considérer, de rendre les choses plus sécurisées. Donc il y a des femmes qui, enfin des femmes et des personnes en général qui s'engagent pour faire du porno safe, mais je sais pas où on peut en trouver. Je pense pas sur les plateformes parce que du coup c'est payant, puisque c'est pour rémunérer mieux correctement, je pense, mais je sais pas, bref. Dans tous les cas, prenez soin de vous, faites ce que vous voulez, on s'en fout des autres et soyez safe. Est-ce que autour de la table, vous avez envie de rajouter un petit truc, Anna?
Si vous souhaitez consommer du porno, allez sur Twitter. Sincèrement.
Sur Twitter?
Ouais, bah du coup X maintenant. Mais sincèrement, c'est là où vous allez trouver les trucs les plus safe. Bon, vous pouvez aussi trouver des trucs hard. Mais...
C'est un peu choqué de ce que tu me dis, Anna.
Sincèrement. Ayant consommé du porno, je sais que Twitter, c'est la meilleure des sources pour le porno amateur.
Ok.
Et du coup, c'est là-dessus où vous allez pouvoir trouver des trucs cool quand même, qui sont pas forcément hyper violents ou quoi que ce soit. Faut tomber sur les bons comptes, faut les trouver, mais essayez pas trop de vous aventurer sur des sites vraiment dark, s'il vous plaît, parce que on sait jamais, après vous pouvez rester traumatisé ou devenir traumatisant.
J'aime bien ce petit twist. Cassandra, est-ce que t'as un petit mot à rajouter pour la fin?
Non, à part je rejoins ce que t'as dit sur le consentement, faut jamais se forcer à faire des trucs.
Grave.
Même si comme tu disais, les trucs oraux et tout, on va vous mettre dans des cases, il faut pas se forcer à le faire parce que sinon Enfin, après, ça peut grave avoir des répercussions pareilles, traumatisantes. Hein, donc, toujours faire ce qu'on a envie, sauf ne pas faire des trucs qu'on n'a pas envie pour faire plaisir à l'autre. Je me suis un peu embrouillée, mais on a compris
l'idée. Faire ce qu'on veut et ne pas se forcer, c'est important. Voilà. Et prenez soin de vous surtout, c'est hyper important. Merci beaucoup à vous deux autour du plateau pour cette petite discussion qui, comme d'habitude, était trop courte. S'il y a d'autres sujets ou questions liés à la sexualité qu'on n'a pas parlé et que vous auriez aimé aborder, vous me direz et on pourra envisager de faire une petite partie 2. Pareil pour vous, auditoris, si vous souhaitez réagir ou aborder d'autres questions, envoyez-nous un DM sur notre Instagram euf-radio-g et on verra comment on peut l'intégrer dans l'émission. Merci à l'équipe d'aujourd'hui, merci Anna, merci Emeline, merci Léonie, merci Mayalène et merci à toi Cassandra. Et bien sûr, merci à vous auditeurices d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle heure de lutte contre le patriarcat. C'était Elle était une fois, votre émission féministe du 101.5 FM et je suis toujours aussi contente d'avoir pu discuter avec vous pendant une heure. Surtout qu'aujourd'hui, on a papoté, hein. Durant cette heure, on vous a fait un bingo des pires remarques pendant les fêtes. Anna vous a présenté un tableau du musée d'Angers et Emeline nous a parlé de Hedy Lamarr, actrice et inventrice de génie. Puis Léonie nous a présenté Never Ever Getting Back Together de Sophie Gonzalez. Nous avons fait un tour de l'actualité du mois de décembre avec le décès de Brigitte Bardot, la polémique entre Léna et Anime et la tradition irlandaise du Noël des femmes. Nous avons également discuté sexualité, où on a pu aborder pas mal de choses, donc vraiment très cool. C'était un petit peu décousu, mais j'espère que ça vous a plu à écouter et à vous à participer sur le plateau. Et on espère que ça aura pu vous aider aussi ou rassurer certaines d'entre vous. On vous souhaite une très belle journée sur Radio G, retrouvée ce soir entre les pages à 17h. Et si vous souhaitez découvrir de nouvelles femmes féminines, de nouvelles voix féminines, pardon, rendez-vous demain à 20h pour Elle chante la francophonie. Quant à nous, on revient dans 2 semaines à 13h et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre Instagram euf-radio-g. Et pour bien finir cette émission, on termine avec une dernière musique qui nous est présentée par toi, Anna. Est-ce que tu peux nous rappeler la musique que tu nous présentes?
En trois mots, tes petites fesses.
Wow.
De Lynn.
Ok.
Donc c'est un son qui est quand même archi cool, qui est tout doux, qui est symphonique quand même. On a envie de glisser dessus, on a envie de juste s'endormir dessus. Et franchement, moi je kiffe, j'adore. C'est en boucle tout le temps.
Tout le temps en boucle. Et ben écoutez ça, on se dit à très très bientôt dans 2 semaines à 13h sur Radio G 100.5 FM, radio-g.fr. Bonne écoute et bisous.
Pour toi je pars à la guerre, je rigole, je vais pas le faire. Je viens d'acheter une paire, jamais je salis mes affaires. Tu vois bien que j'ai bu, j'ai pas compté les verres. Les deux pieds sur terre, mais je te donne le mal des mers. Tu sais bien que j'abuse, je sais pas comment me taire. Y'a pas d'excuse, c'est juste pas comment faire. Je voulais amorcer la chute, mais elle était trop amère. Puis tout ça c'est du bluff, tu mâcherais dans tes DM. Au fond moi j'aime bien tes petites fesses. Je voulais juste qu'on danse et que jamais on s'arrête. Où va le reste? Au fond j'aimais trop tes petites fesses. Est-ce que je peux te donner ce résumé à tes mots de tête? Et c'est la merde.